parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine « Droits et citoyenneté ». Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30, tous les jeudis à 13h30.
Comment lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo? Vous savez, la RDC est un pays riche avec une population pauvre. La situation socio-économique de bon nombre de citoyens congolais est loin d'être brillante. Ils ont un revenu estimé à 1 $ par jour et par personne, d'après les experts. Une situation extrêmement alarmante qui n'est pas sans conséquence, c'est la misère, des difficultés. Les gens éprouvent des difficultés chaque jour, des difficultés pour manger chaque jour à sa faim, des difficultés d'accéder aux services sociaux des bases, d'avoir un habitat décent, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer le pouvoir d'achat de la population et permettre aux citoyens de vivre décemment? On en parle dans cette émission avec le professeur Dadi Salé, il est expert en développement et on a suivi également dans son discours à la Nation, le chef de l'État l'a si bien dit que l'année 2020 est l'année de l'action, l'année de la lutte contre la pauvreté. Professeur Dadi Salé, vous êtes expert en développement, encore une fois bonjour.
Bonjour encore une fois.
Alors la première question, avant de parler de la lutte contre la pauvreté, pouvez-vous d'abord nous rappeler c'est quoi la pauvreté?
Ok, la pauvreté, c'est un concept un peu compliqué, mais on peut l'apprendre d'une façon simple. Quand on n'arrive pas à ne pas satisfaire son désir ardent et ses besoins de première nécessité, alors en ce moment-là, vous pouvez être appelé pauvre. Exemple, si vous n'arrivez pas à avoir de l'eau potable, si vous n'arrivez pas à avoir à manger, et facilement, on peut voir notre pyramide de Maslow. Donc, si le besoin de première nécessité ne sont pas satisfaits, alors là, vous pouvez être classé comme étant une population ou bien une personne en extrême pauvreté, ainsi de suite. Si vous arrivez quand même à remplir ces besoins-là, on peut déjà se dire que vous pouvez être dans la pauvreté, mais pas en extrême pauvreté. Si vous arrivez à remplir les deux besoins, primaire et secondaire, on peut bien supposer que là, vous êtes sorti de la pauvreté. Voilà un peu d'une façon simpliste.
Alors, quels sont les autres besoins de première nécessité? Vous avez parlé de l'eau potable, par exemple, avoir l'eau potable, avoir à manger. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez citer d'autre?
L'habitat, comme vous avez dit.
Oui.
Donc, vous devez avoir un logement décent. Vous devez avoir accès à l'éducation, raison pour laquelle l'éducation, effectivement, est gratuite. On félicite le gouvernement. Et gratuite en République démocratique du Congo, surtout pour l'école primaire, parce qu'on suppose que si vous ne vous éduquez pas, c'est un signe de pauvreté, effectivement. Il y a beaucoup d'aspects qui peuvent définir effectivement la pauvreté, comme je l'ai dit. Les indicateurs ne sont pas déterminés. On essaie seulement de les regrouper par rapport effectivement à Maslow, à la pyramide de Maslow, parce qu'on suppose effectivement que si vous n'avez pas accès à l'eau potable, à l'électricité, à la
professeur,
manger,
professeur
des
Dadi,
fois,
professeur,
la journée.
Professeur Dadi, il me semble qu'il y a un téléphone qui sonne à côté de vous, si possible.
Oui, apparemment, il y a un autre téléphone qui sonne à côté.
Ouais, si vous pouvez l'éteindre pour ne pas... Voilà.
Voilà, ah, okay, donc, je vais demander qu'on puisse l'éteindre.
Merci bien. Donc, nous parlons de la lutte contre la pauvreté dans cette émission de La Vie au quotidien avec le professeur Dadi Salé, expert en développement. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à la pauvreté. La pauvreté, appelez déjà au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Professeur Dadi a énuméré les besoins des premières nécessités. Si on n'arrive pas à satisfaire ce besoin, donc on est dans une situation de pauvreté. Alors, professeur, parfois on parle de l'extrême pauvreté. Qu'est-ce que cela veut dire?
Oui, l'extrême pauvreté, comme je l'ai dit, c'est pratiquement quelqu'un qui n'arrive pas à réunir le besoin de première nécessité par rapport à Maslow. Je prends cela pourquoi? Parce que c'est une des définitions compréhensives, n'est-ce pas? La plus simple. Donc, si vous avez une malnutrition, par exemple, aiguë, c'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à avoir la nourriture quotidiennement, ben, franchement, vous n'arrivez même pas à avoir de l'eau, vous avez de malaria à chaque fois, vous avez de la diarrhée, vous tombez malade juste par rapport à ce besoin-là, vous dormez dans une maison totalement trouée où l'intempérie vous ravage chaque fois, là, immédiatement, on considère que vous vivez en extrême pauvreté. Donc, c'est un peu comme si vous n'arrivez même pas à satisfaire même le minimum, le besoin de première nécessité. Ce sont des définitions, il y a beaucoup de définitions complexes, mais comme on est à la radio, je préfère des définitions avec des exemples
tout
où
à
on
fait.
Comprend c'est quoi l'extrême pauvreté. C'est un peu ça. Certes, que comme on est en train de dire, il y a un aspect de la pauvreté très important que nous oublions, c'est cet aspect psychologique. Il y a une pauvreté psychologique et vous pouvez être en extrême pauvreté psychologique si vous n'avez même pas la liberté de penser, vous n'avez même pas la liberté d'entreprendre, au fond, votre liberté pour que vous puissiez vous en sortir, vous puissiez vous enrichir, vous puissiez bénéficier de certaines ressources, vous n'en avez pas. Alors là aussi, on considère que vous êtes en extrême pauvreté.
Alors, professeur, d'après certains rapports du PNUD, en RDC, plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. C'est quand même énorme, alors que nous sommes dans un pays riche, mais là, sa population est pauvre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la pauvreté, sortir de cette misère qui frappe une bonne partie de la population congolaise?
Ben oui, comme vous venez de le dire, nous sommes classés parmi le 9 malheureux pays. Donc, nous sommes dans les top 10 des États et territoires du monde avec un taux de pauvreté le plus élevé. Et malheureusement, ça ne fait que s'accroître selon les données de nos propres recherches, surtout en Afrique centrale, où ça tend pour l'instant à 80%. Ça, ce sont des chiffres très malheureux. Donc, en général, on était à 71%, et là, on tend vers 80%. Mais il faut dire qu'en 2014, nous étions déjà à 63%. Donc, c'était quand même, ça commençait à s'arranger. Comme en 2004, on était à 69%, là, on est à 80%. Donc, la situation s'est empirée. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire qu'il nous faut des politiques de lutte contre la pauvreté d'une façon drastique. Ça, c'est sûr et certain. Il nous faut un courage extraordinaire, non seulement du gouvernement, mais surtout de la population qui doit se prendre en charge. Cela étant, on peut le constater déjà positivement un peu dans le budget de l'État congolais. On voit qu'il y a des efforts et cette grande volonté, si on voit le discours à la nation, on sent que le président de la République et les gouvernements ont mis comme élément principal la lutte contre la pauvreté. Mais cela étant, en tant qu'analyste, je suis dans l'obligation de dire les choses. Il y a même, c'est parmi les piliers, je pense le 15e pilier, voilà. 15e pilier, c'est la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale. Alors, cette lutte contre la pauvreté, il est un peu difficile pour le commun des mortels d'analyser notre budget. Pourquoi ? Parce que le Premier ministre dit avec raison que pratiquement tous les autres éléments, ça va du budget, concourent à la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est vrai. Mais on comprend un point en termes chiffrés. Notre rubrique palier, ok, 4300, ça va, c'est ça notre rubrique dans le budget.
Oui.
C'est l'État congolais, lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale. Malheureusement, c'est juste 0,08%. du budget. J'ai dit 0,08% du budget. Donc, il y a une sorte de contraste, n'est-ce pas? La volonté est là de lutter. Certes, vous comprenez, par exemple, l'éducation qui prend plus de 20% du budget. On sait que d'une façon indirecte, ça aide et ça va diminuer la pauvreté. Mais malheureusement, les effets de l'éducation dans ces sens précis, gratuité, etc., n'auront pas des effets immédiats. ça aura des effets à court terme et non à long, et non, ça aura des effets à moyen terme et non à court terme. Mmh. C'est-à-dire, effectivement, on sent effectivement que, il y a une bonne part qui a été mise du budget dans l'industrialisation. Or, nous savons très bien que certes, ça pourra créer certains emplois, mais pas énormément d'emplois. Donc, les gens qui vivent vraiment en extrême pauvreté, dans la pauvreté, risquent de ne pas profiter de l'industrialisation d'une façon directe. C'est-à-dire, effectivement, il y aura des gras bonas, des gros bonas qui vont avoir des fonds par rapport au ministère de l'Industrie, qu'on félicite, l'excellent Julien Paluku, mais malheureusement, ça ne va pas toucher directement la grande partie qui souffre de la pauvreté. Donc, il y a un peu ces contrastes-là. J'ai voulu un peu, on dit, initier une série de programmes de formation technique et professionnelle. Oui, ça c'est bien. On dit, il faut qu'on mette des crédits, des microcrédits. Mais pratiquement, vous comprenez que c'est 0%, presque dans le budget. Donc, on peut bien les dire, mais ça ne se reflète pas d'une façon directe dans le budget. Ça se reflète indirectement parce que s'il y a la sécurité, s'il y a des infrastructures qui vont se construire et tout le reste. Donc, la rubrique lutte contre la pauvreté d'une façon directe semble être en contraste entre le discours du chef de l'État et du Premier ministre qui mettent la lutte contre la pauvreté au devant et malheureusement le budget. Voilà un des problèmes.
Voilà. À part le budget, quels sont les autres impératifs ou les facteurs qui vont nous aider à sortir de la pauvreté?
Alors, résumons un peu. Nous devons avoir des politiques macroéconomiques assez adéquates et microéconomiques assez courageuses. Là, c'est d'une façon générale. Là, j'ai tout résumé normalement. Mmh. Pour ceux qui comprennent mieux, toutes nos politiques macroéconomiques, ça va, on peut parler de l'inflation, des grandes infrastructures, etc. Mais si ça n'a pas de l'impact direct, ok, sur la grande population, alors là, ce sont des œuvres et ce sont des activités importantes, mais qui ne vont pas vraiment diminuer la pauvreté facilement. Exemple, si nous comptons sur des routes de la ville, on construit des routes, effectivement, mais on n'arrange pas les routes de dessertes agricoles. Je ne sais pas si vous me suivez. À Kinshasa, par exemple, on ne cultive pas. On ne cultive que dans des périphéries, à Beni, à Mangina et dans des endroits comme ça. Donc, s'il n'y a pas des routes, même si on aura construit des ponts, ponts de moutons, etc., mais ça risque de ne pas avoir un grand impact sur le développement, ça va, de la pauvreté, des pauvres. Les industriels et certains grands bonas de la ville peuvent bien avoir une certaine facilité, mais comment est-ce que les sauts des moutons vont impacter par rapport aux agriculteurs qui sont à Kasongo et qui doivent déplacer le riz qui et de l'huile qui doivent arriver maintenant à Kindu et dans d'autres villes à moins cher. Donc, je pense effectivement que les politiques macroéconomiques, c'est assez bon, mais je pense que ce n'est pas assez courageux.
D'accord.
Exemple simple.
Professeur, je reviens à vous, oui. Le temps d'accueillir les auditeurs. Dona Matondo nous appelle de Bukavu. Papi Kalema est à Kindu. Okay. Comment lutter contre la pauvreté? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la pauvreté en République démocratique du Congo? Appelez pour participer au 081 890 63 94.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Comment lutter contre la pauvreté en RDC? Dona Matondo, vous êtes à Bukavu, dans le sud Kivu. Bonjour.
Bonjour, monsieur Daniel Kassama. Bonjour à notre invité du jour.
Bien. Alors, Dona, quelle est votre préoccupation par rapport à ces sujets?
Oui, avant d'intervenir, je vais poser deux petites questions à notre invité.
Oui.
La première est la suivante. Le taux de la pauvreté s'évalue par rapport au chômage du pays ou comment c'est, on a toujours évalué le taux de la pauvreté dans un pays. Ma deuxième question est de savoir, notre invité a donné la définition de la pauvreté. Il a commencé par les enfants qui n'ont pas passé au banc de l'école. Donc, il a félicité d'abord les gouvernements qui ont donné la gratuité des élèves qui vont à l'école. Alors, quelqu'un qui n'a pas passé au banc de l'école, comment il peut lutter contre la pauvreté pour que cette pauvreté ne soit pas victime de la pauvreté? Ce qui cause à ce que je pose cette question, on a toujours voir les gouvernements fixer le budget, mais l'argent ne circule pas à la population. C'est pas qu'il y a quel avantage que la population peut avoir à ce budget qu'on a toujours fixé au moment que soit il y a beaucoup de chômeurs.
Oui.
Regarde, souvent comme on est en train de vivre ces derniers temps, le taux d'échange est très élevé et ça augmente aussi la pauvreté, parce que quand vous allez au marché, vous achetez quelque chose, souvent on vous donne le taux de dollars. Donc c'est comme si notre pays est devenu l'Amérique. Quand vous achetez quelque chose, on a toujours fixé le prix de ce que vous allez acheter au taux de dollars.
D'accord. Bon. Merci Donna, merci Donna. Merci Donna depuis Bukavu. On va donner la parole à Papi Kalema de Kindu. Bonjour Papi, quelle est votre préoccupation par rapport à la pauvreté?
Bonjour Daniel Kassama, bonjour à la communauté.
On vous écoute difficilement Papi, je ne sais pas à quel endroit vous êtes.
Je disais bonjour, joli Daniel Kassama.
Bonjour Papi, quelle est votre préoccupation?
C'est avec amertume que je suis intéressé.
Voilà, je crois que votre téléphone... Oui, parlez un peu plus fort, papy.
Oui, là, vous m'entendez?
Oui, ça va. Ça va mieux.
Ok, ça va. Moi, je voulais juste poser une question à notre invité. Parce
oui.
que moi, je vois que c'est une antithèse.
Allez-y rapidement.
Avoir un pays très riche, et la population très pauvre. À quoi est dit d'avoir un pays très riche et la population est très pauvre? Est-ce c'est la mauvaise volonté des dirigeants ou c'est la mauvaise volonté des dirigeants? Parce que le pays est très riche, le pays a beaucoup de ressources. Et les Congolais, est-ce que les Congolais profitent de leurs ressources ou ce sont les autres pays qui en profitent pour que les Congolais soient très pauvres? Vous n'étiez pas chez moi jeudi, le jour de la fête, c'est presque tout le monde qui plaignait. Donc, pour avoir ne fût-ce que quelque chose en fait de mettre sous la dent, c'est un problème très très sérieux. Et les fonctionnaires de l'État, et les commerçants, et ceux qui vendent, c'est tout le monde qui plaignait. L'argent ne se fait pas voir. Il n'y a pas l'argent. Donc, on n'a pas même le goût d'aller demander ne fût-ce que un 10 francs chez son grand frère. Lorsque tu vas chez ton grand frère pour lui présenter ce que tu as comme problème, lui commence, t'avance déjà avec ce qu'il a comme aussi ces préoccupations-là. Donc tu rentres, tu n'as pas même su comment disposer votre problème. C'est ce que j'allais demander à notre invité, de me donner cette antithèse-là, qui est d'avoir un pays très riche et la population très pauvre.
D'accord, merci. Jean-Pierre,
merci beaucoup, j'ai dit.
Jean-Pierre, vous êtes à Kikwit. Bonjour et quelle est votre préoccupation?
Bonjour, monsieur. Je dis d'abord mes voeux de bonheur et de prospérité à la radio Capi Service.
Merci, et bonne année.
Voilà. Bonne année à vous, Jota. Voilà, le pays est riche. Le peuple souffre de la pauvreté. Ce n'est pas le peuple. À l'époque, nous avions des routes agricoles, des recettes agricoles. Tout se partait à partir de l'intérieur. Ça va en ville, ça va à Kinshasa, les gens s'alimentent. Et maintenant, notre politique est mauvaise. Ce n'est pas la population, ce n'est pas le pays qui rend riche, mais c'est les dirigeants de ce pays qui ont une mauvaise volonté de rendre leur peuple riche. Parce que, regardez le pays tel que la Libye. Comment est-ce que Gaddafi a dirigé la Libye? Il paye même le chômeur. Est-ce qu'il serait capable, un pays qui a beaucoup de potentialité, pour payer les autres tout ce qu'on vend? Le cobalt, le thym, le cuivre, l'or que nous avons, le pétrole, les rivières qui donnent la...
Alors, Jean-Pierre, bon, on va pas continuer à nous plaindre. On a suivi les chefs de l'État, d'ici l'année de l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à l'action, d'après vous? Quelles sont les actions concrètes à poser pour sortir de la pauvreté?
Pour sortir de la pauvreté, le président de la République a prôné d'abord l'action, l'année de l'action. Mais cette année de l'action, il faut payer les autres, les travailleurs, parce que les travailleurs peuvent engager d'autres personnes, payer ceux qui sont au service, et ces gens-là peuvent aussi engager certaines personnes. Les autres, comme maintenant, à l'époque on avait des domestiques, est-ce qu'on a des domestiques aujourd'hui? Moi qui vous parle, je suis enseignant, j'avais un domestique à l'époque, est-ce qu'aujourd'hui je suis capable de payer un domestique? C'est même impossible.
D'accord, vous dites qu'il faut améliorer les salaires des fonctionnaires et cela leur permettra de bien vivre. Merci d'avoir appelé.
Oui.
D'accord, merci d'avoir appelé Jean-Pierre. On va donner la parole à Clovis de Kamina. Clovis, vous êtes à Kamina. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à l'invité.
Alors, nous parlons de la lutte contre la pauvreté. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la pauvreté et de la misère?
Et la question est la suivante. J'ai entendu le discours du président de dire que non, c'est l'année de l'action de contre la pauvreté. Est-ce que la province comme la nôtre est sans emploi? Il n'y a aucun emploi. Est-ce que la population, comment est-ce qu'il y aura un changement? Et la population, comment est-ce qu'elle va changer sans emploi? Et je demande à l'invité encore, est-ce que dès que vous mettez le carburant devant la route, vous vendez le carburant, il y a beaucoup de services qui vous suivent, que l'on aurait acheté des taxes et beaucoup de services qui vous dérangent. Est-ce que la province comme la nôtre est sans emploi? Est-ce qu'on peut évoluer, on peut changer?
D'accord, merci Clovis. Fiston Ongala, vous êtes à Guémena, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers la radio Capi.
Quelles sont vos préoccupations?
Nous avons aimé la pertinence de ce sujet, puisque c'est un sujet qui touche vraiment le vécu quotidien de la population. Mais seulement que nous avons quelques observations et analyses sur ces problèmes ici de la pauvreté. Mmh. Il serait vraiment imaginable que la République démocratique du Congo, qui renferme toutes les potentialités, mais sa population croupisse dans la misère. Alors, sur ce point, moi je pense que la responsabilité est à partager, puisque il y a un notaire, je donne le cours de l'économie de développement en sixième année des humanités sociales, mais il y a un notaire qui dit que la pauvreté est une faute. La pauvreté est une faute, c'est lui qui l'atteint, elle est responsable de sa misère. Ça veut dire quoi, je dis? Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer qu'il y a la pauvreté intense en République démocratique du Congo, mais il y a des responsabilités qui sont à partager. Les gouvernements n'arrivent pas tellement à subvenir aux besoins de la population. C'est-à-dire quoi? Quand je parle des gouvernements, réhabiliter les routes de dessertes agricoles, donner l'emploi à tous ceux qui sortent dans des universités et instituts supérieurs, mais aussi, la population doit avoir conscience. Moi, je définis le travail étant une activité consciente de l'homme pour subvenir à ses besoins. C'est-à-dire quoi? Même si on est un agriculteur, même si on est un cordonnier, même si on est un charpentier, et qu'on fait très bien son travail, et qu'on maîtrise très bien son travail, vous allez tout faire de sortir dans cette pauvreté. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, les Congolais ont l'air par défaut, parce que les Congolais visent plus à étudier, visent à être dans des pays étrangers, mais pas faire le travail. Et visent plus à rester dans des bureaux.
D'accord, merci. Merci Fiston, merci beaucoup d'avoir appelé. Oui, merci d'avoir appelé. Oui, rapidement.
Du côté gouvernement, je voulais interpeller nos dirigeants que la répartition soit équitable sur toute l'étendue, c'est-à-dire développement intégral et harmonieux. Si un enseignant Kinshasa touche 50 ou 100 000 francs, l'enseignant qui est dans l'arrière-pays doit aussi bénéficier au même titre d'avantage. Et dans ce sens, nous pouvons quand même sortir dans les réservoirs de la pauvreté comme nous nous sommes qualifiés et répandus partout dans le monde.
Bien, merci Fiston Gala de Guémena. Professeur Dadi Salé, vous avez suivi les préoccupations des compatriotes.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Tout à fait. Je pense que ce sont des préoccupations légitimes. Si vous prenez Monsieur Donna, je vais vraiment essayer d'être très rapide. Monsieur Donna de Bukavu qui pose la question sur comment s'évalue le taux de pauvreté. Au fond, le taux de pauvreté, c'est un élément assez technique, mais d'une façon simpliste, ça correspond effectivement à une sorte de proportion d'individus dont le niveau de vie est inférieur par an à un certain seuil. C'est ce qu'on appelle seuil de pauvreté. Si on doit aller loin, à ce moment-là, on doit calculer les revenus disponibles, le patrimoine, les pensions de retraite, les prestations sociales, un peu on soustrait les impôts, donc c'est un calcul, mais on comprend que c'est une proportion, ça va, c'est ce qu'il faut retenir, proportion d'individus, une population, ça va, qui vit à un certain niveau qu'on détermine, et les seuils de pauvreté est déterminé au niveau international. On a le 1 dollar, si vous êtes en deçà du 1 dollar, donc vous êtes en deçà du seuil de pauvreté.
Alors, il voulait aussi dire, professeur, est-ce que le nombre élevé des chômeurs dans le pays est un indicateur de la pauvreté?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Le nombre élevé dans le pays est un indicateur naturellement, puisqu'on suppose que ces gens-là ne sont pas productifs. Les chômeurs ne sont pas productifs. Alors, c'est-à-dire effectivement qu'ils n'ont même pas des revenus. Or, on vient de dire ici qu'on les calcule aussi, il y a la considération des revenus disponibles. Donc, si vous n'avez pas des revenus, vous allez accroître les taux de pauvreté dans une population en donnée. Il a tout à fait raison, malheureusement.
Voilà, il dit maintenant, pour les gens qui n'ont pas été à l'école, ceux qui n'ont pas étudié, qu'est-ce qu'ils feront pour sortir de la pauvreté?
On les considère, mais ici, comme je l'ai dit, on les considère dans les calculs, mais les gens qui n'ont pas été à l'école deviennent, entre guillemets, on suppose qu'ils risquent de ne pas être productifs et de ne pas comprendre les systèmes. Raison pour laquelle, quand on dit que l'éducation est primaire, est gratuite et obligatoire, je précise. Je pense que si je ne m'abuse, c'est ce que dit la Constitution. C'est parce que nous voulons effectivement que les législateurs a voulu que la République puisse avoir des citoyens capables de produire. Parce que si on n'est pas éduqué, le minimum, je ne dis pas que tout le monde doit devenir professeur et faire l'université, non. Mais un minimum, donc on sait que la personne sera plutôt rationnelle et pourra produire et se prendre en charge. Donc, il y a cause à effet indirect, c'est pas nécessairement direct, entre l'éducation, ok, et les niveaux de vie d'une pauvreté et d'une population et malheureusement la pauvreté.
Voilà.
Alors pour papy. Je vais y aller rapidement. Pour Papi Dekalemi, naturellement, il révèle encore ce qu'on a comme contraste entre pays riches et population pauvre. Et il pose la question, est-ce que c'est la mauvaise volonté des dirigeants, etc. Je pense effectivement à notre invité, il a tout à fait raison, et tout le monde en parle. Personne n'a dit l'inverse. Comment est-ce qu'on peut être potentiellement très riche et être pauvre dans le concret? Et il faut dire à notre ami que tout le monde concourt. Et nous comprenons qu'on a un problème des politiques économiques, des politiques de lutte contre la pauvreté. Je venais de le dire encore une fois. Quand on élit les députés, ça va, on doit avoir un contrat avec eux. Donc toute la population, plutôt qu'élire des députés, parce que c'est eux qui font des lois, c'est eux qui font la loi budgétaire. Alors, plutôt qu'élire des députés sur base des tribus, sur base d'une certaine connotation, alors nous demandons effectivement à la population d'être logique. On doit avoir des contrats avec nos dirigeants. Les contrats, c'est que nous vous élisons pour que vous puissiez aller faire telle chose pour l'intérêt, exemple simple de Kadhafi, comme un des intervenants l'a si bien dit. Comment est-ce que vous pouvez arriver à faire diminuer les taux, effectivement, de taxation? Comment est-ce que vous pouvez faciliter la productivité de l'agriculture? Je pense, effectivement, que nous sommes tous responsables. Donc, il a raison. Je lui donne un exemple simple. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux minéraux? Est-ce que nous avons des industries de transformation? C'est-à-dire exactement, nous subissons le prix qui vient de l'extérieur. Donc, nous ne bénéficions pas de la manne d'une façon conséquente de la production minière. Heureusement, c'est à peine qu'encore une fois, la loi minière vient d'être changée. Nous espérons que les effets économiques vont être rapidement visibles par rapport au bien de la population. Donc, il a raison, mais c'est un combat. Et nous devons tous nous y mettre. On a vu, je viens de décortiquer un peu la lutte contre la pauvreté par rapport à la loi budgétaire 2020. On sent que la volonté est là, mais je suis désolé, les chiffres n'y sont pas.
Oui, parce que vous l'avez indiqué tout à l'heure que la part qui est réservée à la lutte contre la pauvreté dans les budgets est de 0,08%.
0,08%. Je suis clair, c'est les budgets. Donc, s'il vous plaît, on peut bien dire des discours, mais exigeons. On devait exiger à nos députés de tout faire pour convaincre le président de la République d'y mettre un montant assez conséquent. Sinon, ben, écoutez, toute l'année va se passer, va s'écouler. Vous voulez que la République puisse faire quoi sans moyens? Que les gouverneurs puissent faire quoi sans moyens? Que les chefs des quartiers ou bien le bourgmestre et le maire de la ville qui représente un peu la base, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moyens? Donc nous avons une sorte de dichotomie entre les beaux discours qui est formidable et la toute bonne volonté. Je sais que c'est pas facile pour les chefs de l'État et le gouvernement parce qu'il y a tellement d'urgences, mais on sent que sur le plan chiffré du budget, ben, il n'y a pas un grand budget. Même si je félicite le fait que on a des budgets comme la sécurité et l'enseignement, c'est aussi important d'une façon indirecte, ça lutte aussi contre la pauvreté. Donc, nous pensons qu'on n'aura pas une diminution de la pauvreté d'une façon conséquente cette année, mais ça peut venir à la deuxième, troisième, quatrième année. Mais ce n'est pas cette année, sauf un miracle, on ne sait pas, l'argent sortira d'où.
Alors, voilà, professeur, professeur Dadi, pensez-vous qu'il est possible de sortir de la pauvreté si on n'améliore pas la gouvernance et on ne lutte pas contre la pauvreté, la corruption de manière efficace?
Non, c'est inconcevable. C'est un peu une contradiction. Qu'est-ce qui se passe effectivement s'il y a corruption? S'il y a corruption, nous avons des collabos qui vendent nos minéraux à moins cher, la population ne bénéficie pas, et il y a des rétrocommissions, rétroconcessions, donc effectivement, la population ne bénéficie pas. Une à deux personnes vont bénéficier, trois, quatre, mais la population ne va pas profiter. Donc s'il n'y a pas bonne gouvernance, la traçabilité effectivement de l'argent, vous le savez mieux que moi, j'ai suivi à la radio Capi un rapport par rapport aux 100 jours du chef de l'État, où l'ONG demandait la transparence. Non, la bonne gouvernance passe par la transparence et passe par l'explication. Donc, nous, population, nous devons savoir que les dirigeants sont nos travailleurs. Les travailleurs doivent nous rendre compte et tout ce qui se fait. Et là, je précise, toute politique économique qui doit se faire pour la République démocratique du Congo doit se faire pour la satisfaction maximale de la population. Et notre satisfaction, c'est avoir l'emploi, comme on le dit, avoir le pain, avoir la sécurité, avoir le minimum. Donc s'il y a des politiques économiques qui ne touchent pas directement, comme l'avait avoué un des anciens gouvernements, où ils avaient dit les sociales ne s'étaient pas améliorées. Nous avons travaillé, mais les sociales ne s'étaient pas améliorées. Non, c'est inconcevable. Il faut que les sociales, effectivement, s'améliorent. Donc les politiques, nos politiques à court, moyen et long terme, apparemment, on néglige trop nos politiques économiques à court terme. À court terme, on doit avoir des emplois qui doivent être créés d'une façon directe et que les jeunes ou bien les entrepreneurs puissent toucher cet argent-là et bénéficier d'une façon directe, pas indirecte, je précise. Et je pense effectivement que entre nous, moi-même à l'époque de du premier ministre Matata Mponyo, parce que ça fait partie de ma thèse, des doctorats, je suis allé proposer une proposition simple, microéconomique, microcrédit,
qui
pouvait faire sortir. C'était la stratégie que j'étais gamin. Là, j'ai plus ou moins 18 000 bénéficiaires comme échantillon, donc avec des formations très simples, et maintenant nous octroyons d'une façon directe et nous les observons. Ces moments-là de marché, est-ce qu'avec 5 dollars, vous pouvez commencer à rentabiliser? Oui, j'ai eu des résultats. Parce qu'avec 5 dollars, la maman était capable, effectivement, d'acheter le makala et de rentabiliser. Après une semaine, elle a 3-4 bassins, un mois, elle a 2-3-4 sacs, et vous la voyez évoluer directement. Je dis pas indirectement, directement. Et il y a des vidéos et tout le reste. Elle arrive à nourrir maintenant ses enfants. Elle arrive à faire étudier ses 2-3 enfants. Parce que c'est ça le vrai problème de la pauvreté. Non, la pauvreté n'est pas une notion absurde. La pauvreté n'est pas une notion où on doit globaliser les choses et on dit on sortira de la pauvreté parce que tout simplement il y aura plus guerre. Oui, mais on peut. La guerre peut finir mais on rentre dans la pauvreté puisqu'il n'y a pas une politique économique de protectionnisme pour que nos marchandises qui sortent des Kindu Kasongo, comme un des intervenants l'a si bien dit, puissent avoir accès facile. La concurrence venant de l'extérieur risquerait, s'il n'y a pas de bonne politique économique, d'écraser encore une fois la productivité. Donc je pense qu'il manque une proximité par rapport à nos politiques économiques et l'intervenant a tout à fait raison.
Bien.
Par rapport à Jean-Pierre de Kikwiti,
où
il a parlé des recettes agricoles, il parle encore de mauvaises politiques ou bien des dirigeants.
Il a parlé des routes des dessertes agricoles, il y en avait à l'époque, aujourd'hui on n'a plus ces routes-là.
Exactement.
Oui.
Oui. Ça s'est détérioré, effectivement. Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle les taux, effectivement, de pauvreté s'est accru. Il y a beaucoup de raisons, mais même les installations en eau potable. Nous savons très bien que moi et vous et toute la population, les installations, par exemple, de la régie des eaux, en grande partie sont vétustes. Les installations en termes d'électricité sont vétustes. Donc, c'est normal que la situation ne puisse que s'empirer, même si... On peut dire que là, on a amélioré des centrales, là, on a amélioré en passant. Non, il nous faut des décisions structurelles, aussi des infrastructures pour qu'on puisse en sortir. L'agriculture, la République démocratique du Congo, si je ne m'abuse, a plus ou moins 80 millions de terres arables. Et là, nous utilisons moins de 10%. C'est-à-dire que nous pouvons nourrir plus de 2 milliards de personnes au monde. Mais nous n'arrivons pas à nourrir 80 millions. Certes, on a compris des programmes comme Bukangalonzo. Je pense que je ne veux pas faire trop de commentaires. Tout le monde connaît les résultats. C'est normal.
Oui.
Parce que l'approche de Bukangalonzo et beaucoup d'approches, c'était des approches extraverties. Vous avez beaucoup de Sud-Africains et des étrangers qui étaient plus utilisés et que ça bloquait effectivement la productivité des petits producteurs qui se trouvaient dans le coin. Donc, l'approche pouvait être bonne, mais malheureusement... Il faut dire la vérité, je suis désolé, en tant qu'économiste, je ne pense pas que l'approche était bonne puisque la population ne bénéficiait pas directement. Ça ne facilitait pas comme je viens de le suivre encore à la radio. J'aime la radio Okapi, à la radio Okapi, l'agribusiness. Donc les Congolais qui sont dans l'agriculture doivent s'enrichir. Les Bukangalonzo ne facilitaient pas les Congolais qui étaient dans l'agriculture. Ça favorisait effectivement certains investisseurs de l'extérieur qui, eux, pouvaient faire des Bukangalonzo ce qu'ils voulaient.
Mais maintenant le gouvernement encourage tout le monde à se lancer dans l'agribusiness. On va revenir à cela tout à l'heure. Le temps d'accueillir deux auditeurs. De Bernice Bounaba, il nous appelle des Mouéné Ditou, et Floribert de Louéna dans le Olomami. De Bernice Bounaba, bonjour et quel est votre préoccupation?
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité. Et je sais qu'à mon humble avis, beaucoup de gens aujourd'hui considèrent la richesse comme une production de fétiches, de magie et surtout de sacrifices humains, dont quelques membres doivent être les victimes. Mais ce que je puis aussi contribuer à ce qui concerne ce que nous devons faire pour lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo, nous devons faire quoi? Nous devons d'abord nous engager nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons d'abord nous engager. En dépit de cela, nous devons aussi éviter la paresse dans les travaux. Comme par exemple, nous avons l'agriculture, la pêche, nous avons aussi l'élevage. Et aussi, nous avons aussi besoin d'avoir la contribution du gouvernement. Lorsque le gouvernement nous soutient quand même avec quelque chose, c'est dans ce moment-là que nous devons aider lutter contre la pauvreté. Je vous remercie.
Merci de Bernice de Mouéné Ditou. Floribert, vous êtes à Louéna, dans le Olomami. Bonjour, et quelle est votre préoccupation par rapport à la lutte contre la pauvreté?
En premier lieu, je salue les analyses du prof. Et moi, je peux donner une proposition apparemment un peu simpliste, mais qui est très importante.
Laquelle?
C'est-à-dire, il faut qu'il y ait le retour de l'homme blanc.
Comment ça?
J'ai une expérience que j'ai vécue dans les années 90 à la SNCC, dans le temps on appelait ça OCS. Les gens souffraient beaucoup. Même un PDG avait dit que celui qui trouve que ça ne marche pas, il peut abandonner. On a donné l'entreprise à un homme blanc. L'homme blanc est venu. Il a tout remis sur le rail, sans problème, et les agents étaient satisfaits. Donc c'est vraiment la proposition que je peux donner, parce qu'on ne peut pas lutter
contre la pauvreté lorsque il y a la corruption qui devient fréquente comme le rhume. Mais il y a aussi un problème. Nous sommes très mal habitués avec cette histoire de la corruption. Il y a aussi ce qu'on appelle l'action retour. C'est ça le mal congolais. Donc la pauvreté ne va pas se terminer avec nous-mêmes. Il faut que l'homme blanc revienne.
Merci Floribert. Il faut faire revenir l'homme blanc. Professeur Dadi, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Non. Je voulais dire à notre ami Floribert, il se fait que je suis panafricaniste et que on n'a pas besoin de l'homme blanc pour se développer. Nous devons être capables de nous prendre en charge nous-mêmes. L'homme blanc est comme nous, ne vous en faites pas. Et c'est là où je vous ai parlé de la pauvreté dans la tête, de la pauvreté psychologique. Et on a un grand sociologue, Paul Pogan, un sociologue de la pauvreté qui en parle à long et en large, où il explique effectivement, et moi-même maintenant dans mes travaux, j'explique que nous avons été corrompus. L'ami effectivement de Olomami, Floribert, c'est un des exemples noir sur blanc qui prouve que dans sa tête, dans sa psychologie, dans sa façon de concevoir les choses, il pense que nous ne pouvons pas être sérieux. Il pense que nous n'avons pas le pouvoir de nous prendre en charge. Je peux bien lui dire, blanc, noir, X, Y, chacun a ses intérêts. Et ce sont les intérêts qui dirigent d'une façon ou d'une autre. Donc les hommes blancs, quand ils viennent d'ici, c'est pour leurs propres intérêts. C'est pas pour notre intérêt. Bien sûr, il faut faire coïncider les intérêts. Donc il faut qu'ils viennent, mais nous-mêmes, nous devons d'abord nous prendre en charge et eux peuvent venir nous compléter quand il y a un problème d'expertise et tout le reste. Donc je suis pas du tout d'accord et on ne pourra jamais se développer si nous sommes incapables d'avoir nos propres industries, nos propres entreprises, nos propres nous créons nous-mêmes notre propre valeur ajoutée et nous fonctionnons comme le monde, c'est la mondialisation. Nous fonctionnons avec tout le monde, rien à voir avec blanc XY. On fonctionne avec tout le monde, mais nous devons nous prendre en charge. Et raison pour laquelle, parmi les solutions, j'ai préconisé et je suis en train de l'appliquer, une innovation, c'est la création des entreprises populaires. Des entreprises populaires pour les Congolais, pour les jeunes, effectivement, où eux-mêmes créent leur propre entreprise, parce qu'on a un problème de capitaux. Beaucoup de gens recourent souvent aux capitaux qui viennent de l'extérieur. Non, les capitaux qui viennent de l'extérieur, oui, peuvent nous aider, mais les capitaux qui viennent de l'extérieur doivent être rentabilisés, n'est-ce pas? Alors, quand on rentabilise les capitaux qui viennent de l'extérieur, la manne de la rentabilisation va à l'extérieur. Mais si nous capitalisons les capitaux qui viennent de l'intérieur, la manne de cette capitalisation des bénéfices reste effectivement. C'est-à-dire que nous pouvons facilement couper les cycles de pauvreté. Mais si nous utilisons en grande partie les fonds qui viennent de l'extérieur, on ne pourra pas couper les cycles de pauvreté.
Professeur Dadi,
c'est un nom catégorique
professeur,
avec mon ami.
Oui. Professeur Dadi de Bernice de Moenedit, tu nous as dit pour sortir de la pauvreté, il faut travailler dur.
Oui, et il a raison. Donc on doit travailler sans relâche. Et je ne citerai pas le nom d'un président parce que beaucoup de gens ne semblent pas l'aimer. Il y a un président africain qui est en train de citer. Eh ben, travailler le plus dur possible parce que la pauvreté fait plus mal que ce que vous êtes en train d'avoir comme souffrance. Donc il faut travailler, mais intelligemment. Parce que comme on l'a dit, la lutte contre la pauvreté, la solution, elle est holistique. Comme le docteur Mukwege parle souvent de l'aspect holistique par rapport à la violence faite à la femme. Oui. C'est la même chose avec la lutte contre la pauvreté. On ne peut pas lutter contre la pauvreté en prenant un seul aspect. Non. Il faut des solutions à court, moyen et long terme. Et comme j'étais en train de le dire, il nous faut des décisions assez efficaces et assez courageuses. Et je pense que c'est ce qui manque. Je vous donne un exemple simple. C'est à peine il y a moins d'un mois que la Chine vient de libéraliser le marché, je pense, de gaz ou bien de matières premières. Je pense que vous êtes mieux informés que moi, probablement. À peine il y a quelques mois. Donc toutes ces années, ce marché-là n'était que pour l'État et pour les nationaux. Un point d'entrée. On doit avoir de décisions protectionnistes. Ça existe dans tout le monde. Les États-Unis ont des décisions, voilà pourquoi ils se battent avec la Chine, ils élaborent le loi pour protéger leur marché.
Oui.
Mais nous, ce n'est pas qu'on est contre qui que ce soit. La mondialisation exige que nous puissions avoir des dirigeants capables de taper sur la table. Le Congolais, je vous donne un exemple aussi encore simple, le tomate que nous consommons à Goma viennent de l'étranger. Et pourtant, nous avons Kibumba, pour ceux qui connaissent Goma, c'est à moins de 30 kilomètres de Goma, qui fournissait, il y a 15 ans, des tomates, un peu tout ce que nous avons comme légumineuses à Goma, sans difficulté. Mais là, c'est fini. Parce que exactement, probablement que le pays voisin a eu une bonne politique où ils ont eu des exonérations, ils ont eu une facilité des productions, ils ont facilité effectivement leur peuple, et maintenant, nous ne faisons que consommer même l'eau qu'on consomme à Goma. En grande partie, vient encore de l'étranger. Donc, oui, c'est inacceptable au fond. Et c'est là, ce sont des politiques économiques, comme je l'ai dit, et ben écoutez, il faut taper sur la table. Donc, il ne faut pas se taper dessus, mais il faut élaborer des politiques économiques pour
protectionniste.
Placer ce pays au diapason du monde.
Bien, on va accueillir Chico Mputu de Mbandaka et ingénieur Serge Kingi nous appelle de Kindu. Comment lutter contre la pauvreté en RDC? On en parle avec le professeur Dadi Salé, expert en développement, qui intervient depuis Goma dans la province du Nord Kivu. Chico Mputu, vous êtes à Mbandaka. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps?
Oui, comme on n'a pas beaucoup de temps, Jody, moi j'allais seulement savoir, parce que le professeur au moins il a beaucoup expliqué, mais la question que je vais poser à notre professeur est de savoir quel est vraiment le secteur que la RDC peut valoriser afin que les jeunes puissent avoir beaucoup d'emplois pour diminuer la pauvreté. Parce qu'il a affirmé que le fait d'avoir un taux élevé de chômeurs dans le pays, c'est le signe du sous-développement. Alors, quel est le secteur qui peut booster d'autres secteurs afin que les jeunes puissent avoir des emplois pour diminuer la pauvreté? Et autre question que je veux savoir aujourd'hui. Au début de l'émission, le professeur a expliqué, mais quelque part, il a touché qu'il faudrait arranger les routes de dessert agricole. Mais c'est ça ce que j'ai l'inquiétude de passer. On peut arranger les routes de dessert agricole. Mais il faudrait regarder la politique agricole de notre pays. Aussi longtemps que nous n'avons pas vraiment l'efficacité en matière de l'agriculture. L'argent qu'on devrait arranger les routes, est-ce que ce n'est pas sans l'argent qu'on devrait d'abord développer les terres agricoles afin que, d'arranger les déserts agricoles?
D'accord, merci.
Depuis la ville de Mbana.
Merci Chico. Ingénieur Serge Kingi, vous êtes à Kindu, bonjour. Quelle est votre préoccupation rapidement?
En tout cas, je suis dépaysé, je suis désolé de la situation de notre pays, monsieur le journaliste. Merci, une fois de plus, c'est meilleur vœu aussi.
Oui, meilleur vœu. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire rapidement pour sortir de la pauvreté?
Le sujet d'aujourd'hui, oui, m'a touché au cœur par rapport à la situation de notre pays. C'est qu'il est nécessaire d'écouter, monsieur le journaliste. Aussi longtemps que la République démocratique du Congo n'arrive pas à créer des entreprises, créer des usines ou des sociétés, diminuer un peu le taux de chômage de la jeunesse. La plupart de la jeunesse de la République démocratique sont des intellectuels. Et aussi, parce que nous n'avons pas tout ça, en tout cas, nous resterons là, en train de tourner seulement au cercle d'ici. Je me demande, un jour, mon grand-père me donnait l'histoire. Oh, Serge, je venais un peu, il y a une histoire, c'est une appellation de
Oui, et Serge, la communication n'est plus bonne, mais on a quand même retenu, il faut créer des entreprises pour diminuer les taux de chômage dans le pays. On va donner la parole à Pacheli de Bounia. Bonjour Pacheli.
Bonjour monsieur Jody, bonjour à l'invité, bonjour.
Rapidement Pacheli, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On n'a plus beaucoup de temps, allez-y rapidement.
À mon avis monsieur Jody, je comprends que c'est la mauvaise volonté des gouvernements.
Oui.
Parce que je peux me défendre. Le gouvernement central, par exemple, avec des contrats léonais, la province ne se retrouve pas. Mais au niveau local aussi, c'est toujours problématique avec les gouvernements. Par exemple, ici à Bougne, récemment, la société Choa Business a ouvert aussi une société qui devait aider les gens à quitter dans la pauvreté. Mais voilà, pour les intérêts égoïstes, le gouvernement a bloqué cette société avec des milliers d'argent des paisibles populations qui est maintenant dans la misère. Total, ça nous fait mal, vraiment,
Monsieur Jody. Merci Pacheli d'avoir partagé cela avec nous. Professeur Dadi Salé, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes ces préoccupations?
Oui, pour notre ami de Mbandaka, au fond, quand il dit quel est le secteur, au fond, en RDC, qui peut plus booster les autres secteurs, c'est difficile de le dire parce que ça dépend de la créativité, mais je pense que si on prend l'agriculture, c'est un secteur où on a un grand potentiel. Si on prend l'aspect minier, OK, c'est aussi un secteur qui a un grand potentiel. Et de toutes les façons, maintenant, nous avons même des e-business et nous avons une certaine créativité des jeunes. Je pense que les secteurs qui peut mieux marcher, c'est les secteurs où nous devons avoir des investisseurs congolais, des entrepreneurs qui sont plus créatifs et qui créent de l'emploi. Il a tout à fait raison. Nous devons créer les emplois pour sortir de la pauvreté. Par rapport aux routes des déserts agricoles, il a encore malheureusement raison. Donc, je ne peux pas les contredire. Nous devons avoir des routes des déserts agricoles, mais il ne faut pas qu'ils puissent faire de l'amalgame par rapport au budget. Certes, qu'il y a la politique agricole, et dans la construction des routes des déserts agricoles, cela fait partie de la politique des déserts agricoles, plutôt la politique agricole de notre pays. Donc, il n'y a pas de différence, parce qu'il a séparé les deux. Pour notre ami de Kindu, créer des usines et sociétés, oui. Je pense qu'on a eu un ministre qui favorisait Made in RDC, mais au même moment, il ne faut pas favoriser Made in RDC, mais par totalement les étrangers, les capitaux qui viennent de l'extérieur. Parce que comme je vous ai expliqué, le bénéfice de ces entreprises ne reste pas en République démocratique du Congo pour vraiment la rentabilisation. Donc il faut aussi créer plutôt des usines par des Congolais ou bien à capitaux majoritaires. Pour notre ami de Bounia, Pachiko, mauvaise volonté du gouvernement, je voulais préciser à tout le monde que ce n'est pas la volonté qui devait gouverner une nation. Non, c'est la technicité et des lois. Quand nous pensons que c'est la volonté qui devrait diriger, ben c'est là, on est dans le sentimentalisme, on n'est pas dans l'objectivisme et la rationalité économique. Voilà, j'ai survolé rapidement.
Bien, professeur Dadi Salé, expert en développement, intervenant depuis les studios de Radio Okapi à Goma dans le Nord Kivu, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.